la chronique du Grand Large de Patrick Simon en direct. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Claudia.
Vous voulez nous parler de ceux qui sont contre les solutions?
Oui, voilà. Lorsqu'un problème apparaît, il y a toujours des solutions qui sont trouvées grâce au génie créatif humain. On peut même remonter à la préhistoire. Quand on a inventé le feu, il n'y a pas eu de personne qui disait « Non, pas de feu, ça peut provoquer des incendies. » Parce que s'il y avait eu ça, tout le monde serait mort de froid et de faim pendant la préhistoire. Alors ça, vous me direz, c'est lointain. Prenons des exemples d'aujourd'hui. Lorsqu'il y a une canicule, ça c'est bien actuel, eh bien il y a une solution qui est la climatisation. Lorsque certaines écoles ne permettent pas de dispenser un enseignement de qualité, on peut imaginer une autre école avec un autre type d'enseignement, et donc ça permettrait la pluralité des solutions. Curieusement, certains mouvements politiques sont contre la solution évidente. Le parti écologiste s'oppose à l'air conditionné dans les murs. Et aussi, il s'oppose d'ailleurs aussi, sur un autre sujet, aux bassines d'eau, stockant en hiver les excès d'eau de pluie pour les utiliser en été quand l'eau vient à manquer. Donc, les écologistes n'aiment pas beaucoup l'air conditionné. Ils disent que ça va créer des îlots de prospérité. Le sinistre Mélenchon n'est pas en reste. Il s'est plaint des attaques de l'air conditionné sur nos sinus. Je ne sais pas si vous avez entendu son intervention là-dessus. Alors, effectivement, chaque solution a des effets collatéraux qui peuvent présenter des inconvénients. Mais malgré ces inconvénients, ces solutions restent préférables. Malgré tout, Marine Tondelier, la candidate écologiste, habite en haut d'un immeuble et elle a récemment reconnu, lors de la précédente canicule, celle de juin, qu'une chaleur étouffante régnait dans son appartement et que les machines à fabriquer du froid auraient été peut-être bien utiles. L'admission de la réalité constitue une sorte d'aveu du mensonge idéologique que souvent ces charlatans mettent en avant. De même, face à la décapilotade de l'enseignement public, on devrait se féliciter du succès des écoles libres hors contrat, qui parviennent à de bons résultats scolaires alors que ça coûte beaucoup moins d'argent à l'État. Pourtant, l'État, et surtout le corps des inspecteurs généraux de l'enseignement, par sectarisme, par préjugés politiques, persécute et continue de persécuter cet enseignement libre en multipliant les contrôles et les critiques de ce qui marche bien, alors qu'il devrait se concentrer sur ce qui marche mal, à savoir certains établissements d'enseignement public. Et c'est ainsi que les élèves des écoles hors contrat se voient privés d'accès aux bons lycées publics ou aux classes préparatoires de haut niveau ou aux concours nationaux, hein. Pensez à Mieux-Liteur à l'école militaire de La Flèche qui a proscrit les élèves du hors-contrat. Hein. Alors cette discrimination est insupportable, mais il paraît qu'ils se sont excusés, qu'ils vont revenir là-dessus. Enfin, toujours est-il qu'il y a discrimination cachée ou revendiquée contre les écoles hors-contrat, alors que leurs résultats sont de qualité. Ben, ça aussi, c'est une solution dont la gauche ne veut pas. Et persécuter les bons au motif qu'ils seraient dans l'entre-soi, disent des gens de gauche. Et laisser les mauvais dans leur médiocrité, c'est ça un peu l'approche qu'ils suivent. Refuser la climatisation sous prétexte de créer des îlots de prospérité pour lui préférer des mesures d'interdiction, par exemple l'interdiction de vente d'alcool pendant la canicule, voilà un symptôme d'écologie politique. Alors, on peut se poser la question, pourquoi donc ces gens sont-ils si défavorables aux solutions, à des solutions qui paraissent évidentes, comme celle de la climatisation quand il fait très chaud? Alors, j'oserai une petite explication. Ce n'est qu'une explication, ce n'est qu'une hypothèse, mais peut-être qu'ils ont choisi de s'opposer à ces solutions parce que le fonds de commerce de ces nuisibles consiste à maintenir la population dans la peine, dans l'embarras, dans la souffrance ou dans la pauvreté. Étouffez, braves gens, ne soyez pas instruits à l'école, ne vous améliorez pas, comme ça vous continuerez de vous plaindre, de protester, et donc vous continuerez de voter pour nous. Et on peut étendre ce raisonnement à bien d'autres sujets, comme celui de l'immigration ou de l'insécurité. Pensez à la solution des caméras de télésurveillance. Il y a une solution là contre l'insécurité. Eh bien, ils n'en veulent pas. Par exemple, à Grenoble, ils s'y sont refugiés. Pensez aussi à d'autres sujets économiques. Les interdictions de travail avec les 35 heures. Pensez à, aussi à, au sujet de retraite. Par exemple, la retraite par capitalisation.
Effectivement, Patrick, il y a beaucoup de solutions à des problèmes économiques pour beaucoup de gens et beaucoup de gens préfèrent ne pas les voir.
C'est dommage.
C'est dommage. Cher Patrick, on vous retrouve dans une semaine, lundi soir à la même heure, pour votre
dans
prochaine
chronique. Dans une semaine, à lundi prochain.
À lundi prochain.
Au revoir, Claudia.
Au revoir.
Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis entouré de Pierre Leprince, Gabriel Fouquet, avec un certain nombre de nouveaux invités, puisque j'ai avec moi Guillaume Proust. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Julie Solveig de Logim, qui interviendra au cours de cette émission comme Guillaume. Et à distance, donc soit par téléphone, soit par visio, en fonction de ce que nous arrivons avec la technique à récupérer, j'ai avec moi Raphaël, Emma et peut-être un peu plus tard, nous l'espérons, le sénateur Stéphane Ravier, qui étaient tous deux à Narbonne pour la manifestation Hommage, une manifestation de mobilisation pour Louis, assassiné dernièrement, donc dans une enquête qui est encore en cours. Donc évidemment, nous prenons toutes les pincettes nécessaires au moment où nous évoquerons cette affaire. Ceci dit, il y a eu une forme de succès pour ce rassemblement, puisque il y avait dimanche à 11h près de 3 500, 4 000 personnes, le peuple finalement qui se mobilise, une forme d'empathie et aussi, il faut le dire, de colère, notamment chez la mère de Louis, qui, contrairement à ce qu'on peut voir, a demandé justement à ce qu'il y ait une forme de récupération, qui est après tout le devoir des politiques, récupérer les craintes, les espoirs, les peines du peuple. Elle a fait cet appel-là qui a été en grande partie entendu. Raphaël, Emma, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez?
Bonsoir Romain, vous m'entendez?
Je vous entends très bien. Alors, donc vous étiez à Narbonne, peut-être un petit mot de contexte, puisque c'est vrai que ces affaires d'assassinat, de meurtre, et là on l'a vu dans des circonstances particulièrement morbides, avec ce regroupement sauvage qui est allé jusqu'à la mort du jeune Louis retrouvé agonisant dans un chantier, tous ces assassinats se succèdent, se multiplient même en France. Et il y a presque une forme de léthargie dans le pays en se disant, mais comment on peut continuer à laisser nos enfants se faire assassiner? Et pourquoi les politiques ne se saisissent pas du sujet? Et de quelle façon le peuple reste comme ça, un peu éteint, sans colère, comme on peut le voir dans d'autres pays ou dans d'autres communautés? Est-ce que, en revenant de Narbonne, en ayant vu cette manifestation qui s'est bien passée, ça vous a permis une première analyse en prenant un peu de hauteur sur ce phénomène général, on va dire?
Tout à fait. Alors, bon, évidemment, il y a d'abord la dimension de drame derrière la mort de Louis ou la mort d'autres dans des circonstances à peu près similaires qui disent quelque chose sur l'ensauvagement du pays. Je voudrais pas du tout écarter l'aspect émotionnel que peuvent ressentir les proches, la famille, évidemment, les gens qui ont été directement touchés par ce drame pour verser dans l'analyse politique froide. Mais le fait est que je parle effectivement en tant qu'activiste et que du coup je porte aussi un regard politique, on va dire, sur tout ce qui s'est passé. Et pour donner un petit peu de contexte, moi j'ai été présent aux deux manifestations qui ont eu lieu, donc la marche blanche qui a eu lieu dimanche, celle qui a rassemblé 4500 personnes à l'appel de la famille de Louis, avec la présence de plusieurs institutionnels, d'un certain nombre d'élus, notamment M. Ravier qui passera tout à l'heure. Mais j'étais aussi présent la semaine passée à une première marche qui avait eu lieu, qui avait déjà réuni 1500 personnes, qui elle avait été plutôt impulsée à l'initiative à la fois de collectifs identitaires, militants, activistes, patriotes, mais aussi avec le soutien de la population locale, puisque la presse régionale, notamment l'Indépendant, qui est plutôt connu pour être marqué à gauche, pour quelques 200 identitaires qui devaient être dans la manifestation, 80% de la manifestation était composée de Narbonnais qui étaient venus justement soutenir, y compris des proches de Louis, comme on peut le voir d'ailleurs dans un reportage que le reporter Vincent Lapierre a fait sur place.
Je vous coupe, j'ai pas bien compris. L'Indépendant a évoqué la première manifestation.
Oui, tout à fait. Donc, l'Indépendant, c'est la presse régionale de gauche, donc de ce coin-là, de la région de Narbonne. Ils ont évoqué la présence d'identitaires dans cette manifestation. La présence d'identitaires a d'ailleurs été remartelée à l'occasion de la marche blanche, évidemment pour essayer de faire un petit peu le procès de la récupération politique. Or, ce qui différencie un petit peu l'affaire Louis des affaires précédentes, et je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir pas mal évoquer ce soir, c'est que la famille s'est clairement positionnée. En ce sens que tous les procès en récupération politique qu'on a l'habitude de nous faire ont été avortés dans l'œuf parce que, précisément, la famille a immédiatement compris la dimension politique de la mort de leur fils. Elle a pointé du doigt l'insécurité, l'ensauvagement. Dans son discours dimanche dernier à Narbonne, la mère de Louis a évoqué la nécessité d'un retour à une réelle perpétuité dans ce pays, donc une vraie peine. Elle a demandé la fin de l'excuse de minorité, ça a été l'un des slogans de la manifestation, puisque les assassins de Louis, enfin les suspects de l'assassinat, en tout cas les personnes impliquées dans l'affaire sont mineures. Et il y a eu un certain nombre donc de mots d'ordre qui ont été avancés, et surtout on sait que dans l'entourage de Louis, on était sur une famille qui avait plutôt des sympathies vers la droite nationale, la droite patriote. Donc ça a différencié ça énormément d'autres francocides ou d'autres faits divers, vrais faits politiques que l'on a pu connaître par le passé, parce que la famille s'est positionnée plus clairement que d'autres familles, en gardant quand même à l'esprit que beaucoup de familles ne s'étaient pas positionnées par le passé parce que les familles subissent dans ces affaires qui deviennent des affaires nationales énormément de pression. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Beaucoup de familles ont témoigné a posteriori sur le fait que quand vous avez un de vos proches qui meurt et que ça fait la une des journaux et ça crée un émoi populaire, vous allez peut-être recevoir des coups de fil de gens importants, des coups de fil de juges, des coups de fil de ministres, voire même parfois, ça s'est vu, du président de la République lui-même, pour que précisément vous ne politisiez pas l'affaire et que vous ne fassiez pas le fameux jeu de l'extrême droite.
Je vais faire une pause et je me tourne vers Julie Solveig. Il n'y a jamais eu de documentation sur ce phénomène, d'articles poussés, de livres sur les pressions qui viendraient de l'État, qui viendraient de médias, qui viendraient de relais d'influence pour taire la parole. Est-ce que vous avez déjà eu écho de ce type d'article ou d'enquête qui aurait pu être mené? En tout cas, il y a un boulevard devant ce phénomène.
Alors, à cette question, il y a deux réponses. Je pourrais vous parler de comment ça se passe dans une rédaction, comment les journalistes traitent des faits divers. Sur la question des pressions de l'État, moi, j'ai travaillé dans plusieurs rédactions. Dans un cadre de faits divers, j'ai jamais vu ça. En revanche, j'ai déjà vécu ça au moment du Covid, juste petite parenthèse rapidement, où il y avait un déjeuner secret entre des journalistes et Emmanuel Macron pour donner des éléments de langage au moment de la crise du Covid, ce qu'il fallait dire aux populations. Donc ça, ça existe, et il me semble même qu'on peut retrouver sur Internet des papiers qui en parlent.
Donc ça, c'est la collusion média-monde politique pour essayer d'avoir une forme
de
d'ordre.
De calmer. Il y a aussi des collusions personnelles. Moi, il y a des journalistes qui... alors, je ne pourrais pas dire comment, mais qui ne veulent pas qu'on traite de certains sujets parce qu'en fait, ils sont proches de tel ou tel ministre. Ça, je l'ai vu dans le cadre de l'affaire Uber. Je travaillais dans une rédaction où le chef du service économie nous avait interdit de parler du scandale Uber. Donc, pourquoi ? Donc, il y a ce genre de collusion. Et dans le cas des faits divers, la pression, les journalistes, en fait, s'auto-censurent. En réalité, il y a aussi cette pression-là personnelle.
On y reviendra, oui. et là, c'est vraiment sur le phénomène de la pression directe sur les parents, qui sont évidemment dévastés, et donc l'État profite de cela pour empêcher une forme de colère légitime, et là, cette manœuvre, finalement, Raphaël Emma, a été court-circuitée par une forme de volonté politique, mais aussi de courage de cette famille.
Je pense qu'il y a, il y a le courage de la famille, évidemment. Il y a aussi la conjoncture, c'est-à-dire que des assassinats de ce type-là, des meurtres de ce type-là qui viennent choquer tout le pays, effectivement, on n'arrive plus à les compter. On a évoqué un certain nombre d'affaires, que ce soit l'affaire Lola, l'affaire Thomas, l'affaire Philippine, toutes ces affaires qui ont fait un peu la une des médias et qui ont créé ces grands mouvements d'émoi populaire avec des rassemblements. On peut dire que l'affaire Louis est peut-être celle qui vient être celle de trop. D'ailleurs, ça a été même les éléments un petit peu qui ont été avancés. Voilà, le nom de la marche de dimanche, c'était la dernière marche.
Oui.
Donc il y avait quand même quelque chose, une volonté de rupture qui était assez claire dans ce qui était avancé. Et je pense aussi que globalement, vous avez... une autre conjoncture qui peut être prise un peu plus en compte, c'est aussi la localité. Ça, c'est peut-être moi qui ai un peu cette vision-là. Vous savez que je suis du sud de la France, mais c'est intéressant. C'est quelque chose qui s'est passé à Narbonne. On est dans des terres qui sont plutôt de droite, des terres de rugby, d'ailleurs, même, où on a pu voir... moi, j'ai pu voir vraiment en allant sur le terrain, puisqu'on a tracté avant, on est venu... mobiliser la population, on a pu voir que ça touchait vraiment la population locale. Là où sur des phénomènes peut-être plus urbains, comme a pu être l'affaire Philippine, on a vu un peu moins la mobilisation, en tout cas dans des terres qui se seraient mobilisées un peu plus contre l'insécurité. Donc je crois que aussi le fait que ça soit un drame qui se soit passé à Narbonne, ça a dû aider dans la mobilisation populaire. Beaucoup de ce que nous disaient beaucoup de marcheurs dimanche et dimanche dernier, c'était, en fait, on est à Narbonne, on est une petite ville de 50 000 habitants, on pensait que ce genre d'affaires n'arrivait qu'à Paris, quoi. Et peut-être dernier détail, je crois aussi que ça s'inscrit dans un contexte plus général, un bruit de fond qu'on entend globalement depuis les affaires sur le périscolaire à Paris et l'affaire Liana, évidemment sur la question des enfants dans ce pays, des violences faites aux enfants. Je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup touché la population, c'est un slogan qui est énormément revenu. Il y avait le contexte que Louis était placé à l'aide sociale à l'enfance, donc il y a une espèce de mot d'ordre qui s'est transféré sur... la responsabilité de l'État, ou plutôt l'abandon des responsabilités de l'État vis-à-vis des enfants qu'il doit protéger précisément. Et ça, je crois que c'est peut-être ça qui a créé la conjoncture émotionnelle qui a permis ce que je qualifierais moi volontiers d'un mouvement social, en fait.
Quelle va être la suite justement de cette manifestation réussie pour que Louis ne soit pas abandonné, pour que justement les politiques récupèrent ce drame, que la population... Vous dites ça a pris à Narbonne parce qu'il y a un peuple. Alors est-ce que ce peuple narbonnais va continuer à se réveiller et finalement à se prendre en main sans attendre qu'on s'occupe de lui puisque l'État est défaillant? Comment vous voyez, est-ce que vous voyez des prémices de changements moraux, politiques, éthiques dans la population au niveau du personnel politique, on va dire?
Alors j'en vois un qui est d'une perspective militante. En général, quand des affaires de ce type-là éclataient et que des mobilisations étaient organisées, souvent, il faut le dire, à l'impulsion des mouvements identitaires, des mouvements patriotes, souvent il y avait un certain cynisme qui s'était mis en place au niveau des responsables institutionnels qui appuyaient de moins en moins ce type de manifestation-là parce qu'elle mobilisait peu de monde. Et je crois que effectivement, il y a eu 2-3 fois où moi qui étais habitué à manifester dans des événements de ce type, par exemple, on avait manifesté un an après la mort de Thomas à Crépol et on avait peiné, entre guillemets, à rassembler 400 personnes à Romans-sur-Isère. On aurait pensé rassembler plus. Je pense qu'après des mobilisations à Narbonne, les responsables institutionnels vont se rendre compte qu'effectivement, la colère populaire peut partir vraiment de la base. Peut vraiment partir sans forcément la courroie de transmission des partis politiques, sans forcément la courroie de transmission de certains influenceurs, de certains journalistes, de certains chroniqueurs de plateaux télé, et peut vraiment partir un peu spontanément. Et d'ailleurs, moi, sans rentrer dans le secret des dieux, je peux vous dire qu'au lendemain de la manifestation, la première manifestation qui avait rassemblé 1500 personnes, j'ai reçu beaucoup de messages me demandant mais d'où sortent ces gens, comment ça se fait que vous avez réussi à rassembler 1500 personnes dimanche dernier à Narbonne, ça s'était pas vu depuis un moment. Donc oui, ça crée un avant et un après, et je crois aussi que l'exemple du courage de la famille de Louis va montrer peut-être, hélas, aux autres familles qui auront à vivre des drames de ce type, que c'est aussi possible de prendre la voie de la résistance, la voie de la résilience, la voie de faire avancer des mots d'ordre pour que précisément ces crimes ne se répètent plus et que l'État prenne ses responsabilités. Et voilà, et je crois que c'est aussi un message qui a été transféré aux manifestants qui étaient présents, aux marcheurs qui étaient présents, c'était de ne pas attendre forcément que la solution vienne d'en haut et qu'il y ait une organisation populaire. Moi, je vais, c'est évidemment pas quelque chose que je souhaite, mais l'un des mots d'ordre et l'un des bruits qui couraient dans la manifestation, c'était évidemment la ressemblance avec les événements de Belfast il y a peu. Ça, c'était quelque chose que les manifestants disaient. Vous avez un extrait qui a pas mal fait le tour des réseaux sociaux où un responsable identitaire de Narbonne parle à Vincent Lapierre et dit, de Carcassonne, pardon, répond à Vincent Lapierre et dit, mais vous savez, la colère du français moyen quand il va se réveiller, elle est bien pire que celle de quelques militants identitaires. Vous ne savez pas de quoi est capable le français moyen.
En tout cas, en ouvrant des livres d'histoire, on peut se rappeler ce dont on est capable. Là, pour le moment, il y a toujours cette forme de léthargie. C'est assez intéressant ce que vous dites. Donc, d'une certaine façon, quelques prémices de réveil. Guillaume Proust, une question ou une réflexion
Oui, bien sûr. Raphaël a été extrêmement complet sur les faits qui se sont passés. C'est vrai que, en tant que militant, on peut rajouter, c'est vrai, cette affaire-là, montre un émoi réellement, là, que ça soit local ou même au niveau national. Ça avait commencé à l'époque déjà avec Lola, puis avec Thomas, puis avec Louis, puis même avec l'affaire Quentin, et même, comme l'avait dit Raphaël, avec l'affaire Henri Novak récemment. Je pense que c'est pas juste quelque chose qui touche une ville, un département, ça touche toute l'Europe. C'est un dénominateur commun, cette insécurité qui est un dénominateur commun. Et puis là, on le voit avec des familles qui peuvent réellement aujourd'hui montrer leur voix. C'est-à-dire que la pression, on la connaît, nous, en tant que militants, on la connaît, la pression politique, la pression médiatique. Et là, aujourd'hui, les familles peuvent aujourd'hui complètement assumer le fait de dire « Oui, je ne suis pas d'accord avec l'État, je prends les choses en main, l'État a failli dans sa manière de faire », puisqu'il faut se rappeler que Louis avait porté plainte déjà pour des violences auparavant, 2 fois, et puis là on se retrouve avec un Louis qui se fait lyncher par terre par 10 personnes. L'État a failli, et la famille en a complètement conscience, et aujourd'hui elle peut porter sa voix, et c'est plus que militant, mais c'est également tout simplement quelque chose de populaire qui touche toutes les strates de la société.
Et Raphaël, Emma, vous parliez tout à l'heure d'un contexte général qui expliquait le succès de ce rassemblement, notamment l'importance de la protection des enfants, qui a, dans le contexte actuel, à jouer. Il y a aussi le procès qui est fait à la justice, qui est une institution particulièrement défaillante. On peut imaginer que les gens, voyant les dysfonctionnements de la justice, largement administrative, administrée, désincarnée, en reviennent à une sorte de violence populaire légitime, quasi sacrée, en dehors des institutions, qui sont pourtant une forme de stabilisateur d'une société saine. Et ces piliers que sont les grandes institutions, l'école, la justice, etc., sont de plus en plus rongés en train de s'écrouler. Et on peut aussi tomber dans un autre travers qui est le fait que les gens commencent à se faire justice eux-mêmes sans intercesseur, sans réelle justice. Est-ce que vous avez cette crainte ou est-ce qu'il faut en passer par là ?
Tout à fait. Guillaume a tout à fait pointé du doigt ce qui était le centre, je crois, le motif de la manifestation, ou plutôt ce qui animait réellement les marcheurs des deux dimanches, c'est la désertion par l'État de l'intégralité de ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on a voulu placer cette affaire sur la question de l'immigration. Ça a été, on peut débattre du profil de Français de papier, peut-être de certains des assassins de Louis, mais je crois que le vrai sujet central dans l'assassinat de Louis, c'est la désertion de l'État à tous les niveaux. Quand il déserte parce qu'il ne prend pas en compte sa plainte, quand il déserte parce que il y a une éducation nationale en faillite dans ce pays qui crée des barbares, quand il déserte son rôle d'assurer la sécurité de ses citoyens. Bref, la désertion absolue de l'État. Et cette désertion absolue de l'État, effectivement, elle mène vers des volontés de justice populaire que l'on ressent de plus en plus. Un exemple, pendant la manifestation, ce n'est pas venu des organisateurs, c'est la foule qui l'a lancé. La foule a scandé peine de mort. C'est quelque chose qui est quand même à noter. Je pense que c'est pas anodin quand 1500 personnes, puis 4500 personnes dans une ville de 50 000 habitants en France commencent à chanter peine de mort. Ça veut dire quelque chose, c'est symptomatique politiquement. Et je crois que nous, notre rôle de militant, et justement c'est précisément ce que l'on dit, c'est que si l'État continue de déserter ses responsabilités, on va vers ce scénario de justice populaire. On ne le souhaite pas, on le pointe du doigt, un peu comme quand on parle des conséquences de l'immigration. Évidemment, nous, on ne veut pas la dislocation de ce pays. On dénonce le fait que ce pays va finir par se disloquer si on poursuit les politiques d'immigration. Ben, c'est exactement pareil avec les questions de désertion des responsabilités de l'État. Si l'État continue de déserter, effectivement, les Français vont s'organiser par eux-mêmes. Et c'est ce que l'on a ressenti vraiment avec cette marche pour lui. C'est même d'ailleurs un peu ce que la famille a pu dire, un peu comme un avertissement. Et je crois que cette marche pour lui, c'est peut-être l'une des dernières qui se passera dans ce contexte-là, et c'est un signal fort que les responsables politiques doivent évidemment prendre en compte.
Alors justement, en parlant des responsables politiques, donc Stéphane Maravier, je pense que nous ne l'aurons pas ce soir, malheureusement, problème de connexion, donc on vous garde avec nous avec plaisir, Raphaël, Emma. Il y a quand même eu aussi cette conjonction, c'est-à-dire un peuple qui se réveille, une famille en colère et qui le dit sans aucune pression, des militants qui préparent le terrain et aussi, il faut le dire, des politiques qui ont répondu à l'appel. Il me semble qu'il y avait plusieurs élus de plusieurs partis différents qui étaient à Narbonne. Là aussi, cette conjonction entre ces différents acteurs, elle est rare. Chacun, finalement, avance d'habitude un petit peu dans son couloir. Est-ce que vous voyez d'un bon œil cette articulation se reproduire de nouveau si de nouveaux drames arrivaient? Nous savons qu'ils vont arriver.
Alors, c'est intéressant une nouvelle fois à regarder avec une perspective militante. La première mobilisation de haute intensité de ce type-là en France a été autour de l'affaire Lola, où une manifestation avait été organisée à Paris. Et la manifestation de l'affaire Lola avait créé un avant et un après, justement entre l'écosystème militant, qui avait un petit peu impulsé la manifestation, et les institutionnels. Puisque dans cette manifestation pour Lola à Paris, vous aviez eu... de part et d'autre, un certain nombre de reproches qui avaient été émis, soit à l'égard des institutionnels qui étaient venus un petit peu récupérer politiquement l'affaire, soit des institutionnels à l'égard des militants qui trouvaient que des excès avaient été commis pendant la manifestation, qui avaient un peu séparé les deux composantes. Pendant très longtemps, nous, ce que l'on a pu observer du point de vue du militantisme identitaire, c'est que dans ce type de manifestation-là, il était rare de voir des institutionnels si la manifestation avait été déposée par des militants identitaires. La dernière fois où nous avons vu des institutionnels, je crois de tête, ça serait la manifestation pour Quentin à Paris devant la Sorbonne, où effectivement un certain nombre d'institutionnels étaient venus, y compris du Rassemblement National, malgré le fait que la manifestation était assez clairement organisée par des militants identitaires. À Narbonne, effectivement, il y a eu une dynamique assez intéressante qui s'est mise en place et que je trouve assez saine. La première semaine, le premier dimanche, vous avez eu effectivement essentiellement des militants identitaires qui étaient à l'organisation, à la manœuvre, qui ont impulsé la FEUS, sans forcément le relais des institutionnels et sans forcément la présence des institutionnels. Ça a pu montrer qu'effectivement 1500 personnes étaient capables de se mobiliser dans des conditions correctes, en se tenant bien, de manière disciplinée, à Narbonne. Le dimanche suivant, donc, nous avons eu des institutionnels qui ont pu venir, les élus, une fois que le terrain, entre guillemets, avait été déblayé. Et effectivement, on a vu que toutes les composantes de la droite nationale étaient représentées, que ce soit le Rassemblement national avec le député local et quelques autres, je crois, qui étaient là, que ce soit Identité et Liberté avec Marion Maréchal et son équipe, ou encore Éric Zemmour qui est venu. Donc, et en plus, dans la manifestation, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que vous aviez les institutionnels qui marchaient avec leur écharpe, et puis, à certains points épars des manifestations, vous aviez des militants, des groupes de militants identitaires qui scandaient des slogans, qui faisaient un peu, qui animaient un peu la foule. Et la dynamique était assez intéressante. Donc, je crois qu'effectivement, ça nous permet peut-être de se réconcilier un petit peu sur ce que l'on peut réussir à faire quand on comprend que l'on est un écosystème et que chaque partie de cet écosystème peut aider l'autre.
Avant de céder la parole à Gabriel Fouquet qui avait une question pour vous, Raphaël Emma, je remercie cet auditeur qui nous envoie des précisions sur le contexte qui a permis cette mobilisation. Il nous rappelle que l'Aude est un ancien département, toujours à gauche, qui a 3 députés, tous RN, et le maire de Carcassonne, RN. Il reste que le mécontentement est plus profond dans un département qui a une tradition de crise viticole et de manifestants déterminés. Donc peut-être... Un petit peu, vous parliez comme de Belfast tout à l'heure, c'est-à-dire un endroit, un lieu où on sait encore se mobiliser, on sait réagir à des crises, chose qu'on ne retrouvera pas dans l'anonymat des centres-villes. C'était votre comparaison tout à l'heure. Je pense que ce contexte nous aide à y voir un petit peu plus clair. Merci à cet auditeur. Gabriel Fouquet, une question.
Bonsoir Raphaël. Moi, je voulais revenir sur un détail. Un élément que vous avez évoqué parmi les nombreux slogans que les nombreuses réclamations de la foule, parce que justement à cause de cette question des institutionnels, les chiffres sont tombés. Hein. 70%, 77% des Français sont pour la fin de l'excuse de minorité. Et manifestement, c'est un appel qui... D'abord, les chiffres sont constants. Depuis 2-3 ans, on oscille entre 75 et 85% pour cette demande. Donc c'est quand même une vraie demande populaire, c'est un vrai plébiscite. Et c'est manifestement un plébiscite qui a déjà été entendu plusieurs fois par nos institutions, jusqu'à ce que, puisqu'en 2025, Gabriel Attal a proposé d'inverser la logique de l'excuse de minorité, voulant en faire l'exception et non plus la règle. Finalement, le Conseil constitutionnel s'y est évidemment opposé. Donc quelle est la limite, on va dire, de ce lien avec les institutions, même si ce lien a l'air de se reformer un petit peu et que les gens continuent à mettre leur espoir dans les institutions. La mère de Louis la Première, puisqu'elle a déclaré quand même qu'elle allait se battre pour qu'il prenne 30 ans de peine ferme, je la cite, elle n'a pas appelé à la vengeance dans la rue. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, ces institutions ne sont pas malgré tout viciées? Quoi qu'il arrive, ce plafond ne peut pas être percé.
Alors,
c'est pas très
moi,
clair, je suis désolée.
Non, c'est parfaitement clair. Moi, si je suis tout à fait honnête avec vous, au jeu institutionnel, je ne crois pas beaucoup. Sinon, je ne serais pas militant dans une structure identitaire et je serais plutôt militant dans un parti. En revanche, je crois que ce que nous prouve justement la méthode de la manifestation, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas l'abandonner, parce qu'on se laisserait un peu happé par les sirènes du seul électoralisme et du seul providentialisme électoral et institutionnel, c'est que précisément, la manifestation, elle vient imposer quelque chose qui est essentiel en politique, qui est le rapport de force. Et ce n'est pas pareil de venir débattre de la peine de mort quand l'opinion publique est de votre côté et qu'il y a des manifestations dans la rue massives qui appellent précisément, par exemple, à rouvrir un débat sur la peine de mort, que quand il y a un grand silence autour et que ce n'est qu'un débat d'éditorialiste de plateau de télévision, si tant est que même on débatte de la pertinence de remettre en place la peine de mort dans ce pays. Sur les plateaux de télévision, que ça soit pour l'excuse de minorité, que ça soit pour d'autres sujets politiques qui n'ont pas forcément tous trait avec le contexte de l'affaire Louis, le rapport de force reste essentiel et on ne peut pas dissocier l'action institutionnelle, l'action des élus et du rapport de force que l'on impose ensuite d'abord dans la rue, mais ensuite dans les imaginaires. C'est ça beaucoup un point sur lequel j'insiste beaucoup, j'en reviens peut-être aux commentaires de l'auditeur. À quoi sert une manifestation aussi ? Ça sert à refaire peuple. Quand des gens qui sont habitués, comme les gens qui ont plutôt nos idées, qui sont plutôt sympathisants de la droite nationale, les gens qui sont sympathisants de la droite nationale ont tendance à être habitués à l'isolement social. On n'a pas en France des structures de sociabilité qui permettent à nos sympathisants d'être, de vivre ensemble, de porter leurs idées ensemble, de porter leurs combats ensemble. Ou trop peu. C'est quelque chose que, pour le coup, c'est pas forcément vrai dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni. En France, on pâtit de l'atomie sociale, et précisément quand on manifeste ensemble, on met en contact des gens qui, peut-être, l'une des conséquences directes de Narbonne, c'est que peut-être dans la région de l'Aude, oui, vous allez avoir des groupes qui vont se former au sein de ces manifestations, qui vont précisément se mobiliser et adopter cette culture de la mobilisation qui permettra plus tard de porter d'autres combats. Et ça, je crois que c'est essentiel, et il faut évidemment renouer avec ça. Et ça ne se fera qu'avec le bon équilibre travail militant, sans que les institutionnels ne mettent des bâtons dans les roues des militants, comme ça peut, hélas, parfois se voir.
Excellente remarque. Une dernière de Guillaume Proust avant la première pause musicale.
Oui, bien sûr, c'était là où c'était extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut être un petit peu décomplexé par rapport à tout ça et se réapproprier aussi un petit peu la rue. C'est quelque chose, la plupart du temps, qui se fait à gauche, au final, avec tous les syndicats, où tout le monde descend dans la rue à chaque fois. On milite, on dit qu'on n'est pas content, on a certaines revendications. Eh bien là, c'est aussi à notre tour. On peut être dans la rue, on peut avoir nos revendications. Là, elles ont été très claires, surtout de la part de la famille, avec un état défaillant, avec des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et puis derrière, c'est aussi notre rôle de militant, aujourd'hui, partout en France, de pouvoir donner cette impulsion pour qu'on puisse derrière recommencer s'il y a quelque chose malheureusement qui peut se passer, ou alors justement, comme disait très bien Raphaël, pour porter des discours, pour porter justement toutes ces revendications qu'on disait. Donc c'est là où c'est très intéressant, se réapproprier le terrain, là où la gauche était extrêmement majoritaire, et bien là, nous sommes là aussi, et nous avons aussi beaucoup de choses à dire.
Merci. Pierre Leprince, la parole est à vous.
Chers auditeurs, bonsoir. Alors, pour détendre un peu l'atmosphère, avec ce sujet quand même assez lourd, qui nous touche particulièrement, direction l'Australie pour ce premier interlude, et je vous propose de découvrir un groupe à l'aura bien mystérieuse, puisque ses membres sont inconnus, qu'ils ne font aucun concert et qu'ils se contentent de sortir régulièrement des albums depuis 2012. Ce groupe, c'est Black Magic Starship, ou BMSS pour les intimes, et ils sont connus par les amateurs de musique de niche pour leur mélange assez inédit de rock psychédélique, de métal et d'occulte. Nous écoutons donc le morceau Betrayer, ça veut dire traître, extrait de leur dernier album tout juste sorti, Scarlet Desires. Bonne écoute.
Betrayer, betrayer,
euros par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Nous revoilà dans le studio, chers amis. Chers auditeurs, vous pouvez évidemment envoyer vos questions, poser vos questions. Nous les passerons à l'antenne avec grand plaisir. Nous continuons cette émission avec Julie Solveig, donc de l'Observatoire du journalisme. Et je m'interrogeais, Julie, sur ce phénomène de l'omerta, puisque concrètement, des affaires de vol, de viol, d'assassinat qui se multiplient arrivent jusqu'à nous souvent grâce aux lanceurs d'alerte, grâce à des activistes qui font remonter l'information via les canaux que sont les médias alternatifs, revues de presse de type F de souche, etc.
Et Twitter aussi, oui, oui.
Ou Twitter.
Oui.
Et on a donc, on est face à un phénomène qui, je pense, n'est pas marginal, mais vous allez nous en dire plus, est massif. C'est l'omerta de la PQR, de la presse quotidienne régionale. On parle souvent des médias centraux. Mmh. On en parle beaucoup depuis, en plus, que Charles Alloncle a mis sur le devant de la scène les collusions, une forme de parasitisme, une forme de propagande qu'il y avait dans les médias centraux. Mais la PQR est d'une puissance absolue sur la façon de délivrer l'information. Comment fonctionne-t-il ?
Bon, on parlait de l'affaire Louis à l'instant, c'est un cas extrêmement typique. Les informations qui sont partagées par les lanceurs d'alerte, les réseaux sociaux, je vous rassure, les rédactions les ont aussi. Simplement, elles font ou le choix de les traiter comme un simple fait divers, soit de ne pas en parler pour deux raisons. La première, c'est que y a la question de l'habitude. C'est-à-dire qu'il y a tellement de faits divers, pourquoi le mettre en avant ? Dans le cas de l'affaire Louis, par exemple, ça n'a même pas fait un encart sur la une. C'est-à-dire que le jour de la mort de Louis, on n'a parlé que de la canicule. Même pas un seul encart. Donc il y a la question de l'habitude d'abord. Il y a tellement de faits divers, pourquoi en mettre un en avant plus qu'un autre ? Ça, je vous assure que les journalistes maintenant pensent comme ça. C'est-à-dire que pendant des années, il ne fallait pas en parler. Et maintenant qu'il y en a trop, ça ne sert plus à rien non plus d'en parler.
Et il ne faut pas oublier que les journalistes sont feignants. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Non, ils sont mis... Pour le coup, c'est un peu un lieu commun de le dire. Mais ils sont, pour beaucoup, militants. Ils le sont de plus en plus. On pourra revenir là-dessus plus tard, si vous voulez, parce qu'en fait, le mal est un peu à la racine. C'est-à-dire qu'en fait, dans les écoles de journalisme, ce sont beaucoup de militants de gauche et d'extrême gauche qui sont recrutés et ils finissent dans des rédactions. On pourra en parler après, si vous voulez. Et l'autre chose, c'est aussi parce que, justement, ce sont des militants, il y a des affaires comme celle de Louis dont vaut mieux ne pas parler. On parlait en off un petit peu tout à l'heure de François Bousquet, l'écrivain qui a écrit beaucoup sur le racisme anti-blanc, qui a beaucoup commenté l'affaire Louis. Il y a le fait que le mettre en avant, c'était, comme il dirait, soulever le couvercle aussi. De quoi on parle quand on parle de l'affaire Louis ? On parle effectivement de la faillite des institutions, qui subventionnent les médias, quand même, il faut le rappeler, de la racisation de la jeunesse blanche. Et donc, en fait... d'une société multiculturelle qui n'est pas apaisée. Et ça, c'est un non-dit total de la presse, des médias centraux, de la presse de gauche. Donc, il y a à la fois, c'est une habitude, pourquoi en parler ? Et puis, dans le même temps, mieux vaut ne pas en parler, parce que sinon, ça serait poser d'autres questions qu'on a essayé de mettre sous le tapis pendant des années.
Et avec le refus aussi de traiter la question raciale, la question de l'immigration, oui, la question de l'opposition entre le peuple autochtone indigène et les immigrés. Même si là, sur Louis... on a vu que c'était plus complexe, oui, que ça. Comme l'a rappelé Raphaël Emma, il y avait d'autres enjeux. Mais ça reste un impensé et un interdit, cette question-là.
L'immigration, moi, comme je vous disais tout à l'heure, bon, je suis encore jeune, mais j'ai fait quand même plusieurs rédactions, puisque quand on est journaliste, on est précaire, donc on travaille dans plusieurs rédactions. L'immigration, c'est le sujet tabou des rédactions des journalistes. C'est le sujet tabou. Voilà. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un fait divers qui va impliquer une personne issue de l'immigration, qu'on suspecte issue de l'immigration, il ne faut pas en parler. Alors... Et à l'inverse, je fais une micro-parenthèse, on parle de la désinformation de l'omerta, mais il y a aussi le phénomène de la surinformation. Je vais vous donner un exemple très concret. quand on travaille dans des rédactions, dans une grande rédaction, on a accès à ce qu'on appelle le fil AFP, aux dépêches AFP. Des dépêches qui sont reprises dans tous les médias. Dès lors que la victime est une personne de couleur et l'agresseur pardon, est blanc, c'est indiqué noir sur blanc dans les dépêches. Un exemple très concret, un policier blanc a tué un homme noir. Donc il y a ce truc-là où l'immigration est un sujet tabou quand la victime est blanche et l'agresseur est issu de l'immigration. C'est un tabou absolu parce que justement les journalistes ont ce sentiment d'avoir un devoir moral de vendre une société apaisée, multiculturelle, du vivre ensemble. Et juste, petite parenthèse, par contre, dans leur vie privée, ce sont des principes qui ne s'appliquent pas.
Oui, c'est les premiers à contourner la carte scolaire.
La carte scolaire, à ne pas vivre dans le centre des villes ou dans des milieux grands remplacés. Ils mettent leurs enfants dans le privé. Enfin, donc voilà.
Gabrielle,
vous parlez du devoir moral des journalistes. Un de leurs premiers devoirs, d'ailleurs, leur première mission, c'est d'être la relation de confiance des gens. Ils donnent l'information, que les gens se soient informés, c'est leur mission par définition. Néanmoins, on voit bien que cette relation de confiance, elle est largement érodée. Combien de gens aujourd'hui disent ne plus lire la presse, ne plus faire confiance à la presse et préférer, paradoxalement, les médias dits alternatifs, sachant que c'est aussi un mot à la mode, donc tout le monde veut être alternatif. Mais on voit bien que si des sites comme Frontières ou à l'inverse Mediapart, qui est un média alternatif à l'origine, ne l'oublions pas, si des sites fonctionnent, si ces réseaux fonctionnent aussi bien, c'est aussi parce que cette presse quotidienne, régionale ou même nationale, quelque part, a failli. On voit bien que les gens n'ont plus confiance en elle. Alors comment est-ce qu'on explique qu'elle continue malgré tout à avoir un tel impact ?
En fait, je pense, et je le pense vraiment très sincèrement, là c'est un avis très personnel, je pense que les journalistes, moi c'est pour ça que j'ai voulu faire du journalisme, parce que j'ai été élevée avec Tintin, le devoir d'informer, etc. Je pense que les journalistes ont oublié ce que veut dire être journaliste. C'est-à-dire que être journaliste, à mon sens, c'est être payé pour aller sur le terrain, écouter les gens et faire remonter les informations.
Ça m'intéresse là, typiquement, sur le meurtre du jeune Louis.
Oui.
Quel aurait été, selon vous, dans un monde idéal où les journalistes font leur travail, quel aurait été le processus, la manœuvre, finalement, qui amène à la vérité de l'information, à la transmission de l'information. Quelles sont les étapes qu'on apprend normalement dans le journalisme quand il
Moi, je vous dis ce que j'aurais fait.
Oui.
Donc déjà, juste
de façon vertueuse, on va dire.
Ce qui est intéressant, c'est pour appuyer mon propos, les médias, donc l'Indépendant et la Dépêche, quand ils ont traité l'information, ils ont mis 5 jours à la traiter, et ils ont parlé d'une rixe. Or, on a appris par la famille que la famille avait fourni les vidéos de l'agression.
Donc c'est un mensonge éhonté.
Un mensonge éhonté, et quand la famille en a parlé, l'Indépendant a gardé le mot rixe, alors que là, tout le monde savait qu'il y avait eu un lynchage mortel. Moi, si j'avais été sur le terrain,
rédac chef de la dépêche.
Voilà. En fait, j'aurais fait ce que je pense n'importe qui aurait fait. Je serais allée sur le terrain déjà, voir le lieu du crime, interroger les gens aux alentours, appeler la famille, découvrir que Louis était à l'ASE, donc on appelle l'ASE, et puis au fur et à mesure, on a une sorte de toile qui se tisse et on appelle chaque personne. C'est aussi simple que ça. Là, le travail n'a pas été fait. C'était une rixe, point, barre. Voilà.
Et là, vous avez, donc imaginons, vous n'êtes pas rédac chef de la dépêche, mais simple journaliste. Vous avez votre rédacteur en chef qui vous dit, non mais attends, ça reste une rixe, ils étaient plusieurs, tu peux pas parler de la couleur de peau des gens, il a peut-être eu des insultes contre ces gens qui l'ont assassiné. Quelle doit être la réaction d'un journaliste face à ces pressions ou cette ambiance directe, indirecte? C'est peut-être là que ça devient difficile, puisque d'une certaine façon, il est aussi précaire, vous avez parlé de la précarité des journalistes. S'il commence à faire réellement son métier, il peut le perdre aussi.
La réponse, elle va être extrêmement courte et simple. Il ne pourra pas l'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque média, il y a ce qu'on appelle un service relecture. Donc, votre papier ne vous appartient plus à partir du moment où vous l'avez écrit. Donc, en fait, ce qui ne conviendra pas sera supprimé.
Par le secrétariat de rédaction qui, va prendre ses ordres.
C'est aussi simple que ça. Ou même naturellement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de beaucoup de rédactions, une charte, c'est-à-dire qu'on peut pas dire ça, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça, donc c'est présenté de manière très gentille, il faut protéger. Par exemple, un exemple très simple, dans l'affaire Lola.
Oui.
L'affaire Lola, moi j'avais travaillé dessus, on n'avait pas le droit de dire son nom. Il fallait pas dire le nom de la Dabia il ne fallait pas le dire pour protéger son identité. Donc si vous l'écrivez dans le papier, la personne qui relie le papier supprime le nom. Elle ne vous le dit pas. C'est dans son code à respecter. Mmh. Donc c'est très simple. C'est-à-dire que vous pouvez écrire ce que vous voulez, on le supprimera. Et puis au bout d'un moment, quand ça commencera à devenir un peu trop souvent que vous écrivez des choses, on vous dira, soit on ne vous reconduit pas le contrat, c'est aussi simple que ça. On vous enlève les piges ou on vous explique que... Moi, je l'ai eu. On vous explique que... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, quoi, parce qu'il faut protéger quand même les gens. Voilà, on ne peut pas jeter sous le bus, même des coupables.
Je fais le tour du plateau. Vous avez d'autres exemples, d'illustrations de ces, finalement, techniques journalistiques non vertueuses. Guillaume Proust ?
Oui, bien sûr. Là, c'est vrai que je rebondis très rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un réel décalage entre ce que peuvent dire les médias et les réalités de tout à chacun. Au final, on voit très bien qu'il y a des choix qui sont faits par la rédaction. On sait très bien de quoi ils parlent, de quoi ils ne veulent surtout pas parler. Et donc ça, c'est des choix. Et puis aujourd'hui, on le voit très bien. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui le service public. Hein. Les journalistes sont avant tout des militants avant d'être des journalistes. Et donc du coup, ils orientent ces informations pour justement passer... une pilule ou une autre.
Alors, des militants ou des feignants un peu lâches. Il y a un peu les deux,
mais derrière,
visiblement.
Ne pas faire ou ne pas prendre un choix, c'est aussi en faire un, justement. Ouais. Donc, c'est justement ne pas en parler alors que, justement, tout le monde a accès à ça. Eh bien, c'est justement ne pas en parler et faire le choix d'invisibiliser un petit peu ce qui peut se passer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le 15 juin, à ce sujet, il y a eu une affaire qui a été un petit peu rocambolesque du côté de Saint-Brieuc. Soi-disant, un homme présentait sur ses papiers, un jeune homme, un enfant, que dis-je, de 10 ans, qui a été mis en examen pour avoir agressé une personne, donc une femme qui se baladait, qui faisait son jogging dans la vallée du Gouédic à Saint-Brieuc. Cette femme faisait son jogging comme tous les jours, comme de nombreuses femmes d'ailleurs dans tous les parcs de France, où par ailleurs ça arrive très régulièrement, des agressions. Eh bien, ce jeune homme de 10 ans a trouvé la bonne... intelligence, j'ai envie de dire, d'arrêter cette femme, de lui demander de se déshabiller, elle qui était en tenue de sport, ce qu'elle a évidemment refusé. Il a donc sorti un couteau et l'a planté deux fois, une fois à la main, une fois à l'abdomen, et puis a pris la fuite. Tout simplement, pourquoi ? Parce que cette femme a refusé de se déshabiller devant un jeune homme présenté sur ses papiers qui a 10 ans. Cette affaire-là, elle a fait un
j'en ai pas
petit
entendu
peu
parler.
Le tour. Personne n'en a entendu parler. Et puis, le plus... drôle, j'ai envie de dire, on parlait de l'affaire Louis avec l'État qui ne prenait pas ses responsabilités. Ce jeune homme, on a appris dans un second papier, cette fois-ci juste un seul, qu'en fait il n'avait peut-être pas 10 ans, mais plutôt 14 ans. Peut-être qu'on va découvrir qu'il a en fait 20 ans, mmh. On ne sait pas. 47 ans, je ne sais pas. On peut tout imaginer dans ce cas-là, sachant qu'aujourd'hui les tests osseux sont aujourd'hui interdits, hein, tout le monde est présenté comme mineur isolé. Et donc cette affaire-là, personne n'en a entendu parler, ou très peu. Justement, on parlait de la presse régionale, la presse locale. C'est un choix de ne pas en parler, ou alors de ne pas continuer à développer cette affaire-là. Je trouve ça toujours un petit peu curieux, quand on parlait de journalistes un petit peu militants, que ce soit au niveau du papier ou que ce soit au niveau de la télé. C'est le cas. Évidemment, on ne parle pas de ça, et on va plutôt parler de la canicule, comme grand encart d'un journal, et 10 pages à la suite. C'est-à-dire que ça, évidemment, toujours... ces meurtres, on parle de l'affaire Quentin, on parle de tout ça, où il y a un émoi populaire qui est grandissant, eh bien on va parler de ce sujet-là dans la rubrique, comme toujours, faits divers, à la fin du journal, peut-être à côté des petites annonces de travail. Et donc c'est tout à la fin d'un journal qu'on va réussir à avoir tout ça. Alors que, honnêtement, ces affaires-là devraient faire la grande une des journaux.
Du coup, moi, c'est une question que je voudrais poser à Julie, mais aussi à l'ensemble du plateau. Si on vous écoute, la rubrique faits divers en France, elle a quand même beaucoup de pages dans les rédactions. À quel moment, quels sont les critères dans une rédaction pour qu'un fait divers passe à phénomène politique ? Parce qu'en l'occurrence, Louis, on a basculé dans un phénomène politique. On ne parle plus uniquement, et ce serait déjà dramatique, de la mort d'un enfant. On parle d'un enfant qui devient un symbole et que sa propre famille a choisi d'ériger comme symbole. Est-ce qu'il y a un moment où un fait peut basculer légitimement d'une rubrique à l'autre ? Il y a des critères ?
C'est une excellente question
à laquelle, sincèrement, j'ai pas la réponse. La première qui me vient en tête, c'est que je pense qu'il y a la dimension systémique, c'est-à-dire que dès lors que c'est considéré comme systémique, c'est-à-dire les violences policières envers les personnes racisées, etc. On va considérer que c'est systémique, donc ils font dénoncer quelque chose parce que c'est de l'ordre national. C'est la réponse qui me vient en tête, alors que Louis, effectivement, ça va être un fait divers. C'est juste des jeunes qui se sont un peu battus et ça a mal tourné. Donc, moi, c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse, sincèrement.
Mais ça sera effectivement la mobilisation, la puissance symbolique, la rupture qu'il peut y avoir avec le traitement habituel qui va faire sortir ce fait divers et lui donner une autre nature en brisant un petit peu le discours officiel, c'est-à-dire ceux qui ont le contrôle du récit officiel.
Et la reprise politique. C'est-à-dire que les politiques ont un rôle énorme aussi. C'est-à-dire que la parole politique est relayée par les médias. Il y a un peu une sorte d'obligation là-dessus. Donc, dès lors qu'une affaire est reprise par des politiques, là, elle va avoir une dimension nationale.
Je me tourne vers Raphaël et Emma. Vous êtes toujours avec nous ? Raphaël ? Oui.
Hello.
Oui, vous êtes là, vous êtes toujours là. Je voulais vous poser la question, donc en tant qu'observateur de ces phénomènes à la fois de mobilisation populaire, de récupération politique, d'engagement militant, dans un contexte d'augmentation de l'insécurité, de faillite des institutions. Sur le sujet là qui nous préoccupe en deuxième partie des missions, qui sont les médias et le traitement journalistique, tout à l'heure, vous disiez, ça bouge un petit peu. 3500 personnes, c'est pas rien. Des politiques qui sont là, c'est pas rien. Le peuple qui se mobilise, c'est pas rien. Une maman qui crie sa colère et qui décide de ne pas se laisser elle-même victimiser, ce n'est pas rien. Est-ce que vous voyez ce bloc central qui a aujourd'hui le monopole du récit dans les médias et dans les journaux être un peu fébrile, où il est extrêmement puissant, et quoi qu'il arrive, l'APQR, les médias centraux aligneront toujours sur cette espèce de discours qui nous handicape complètement.
Alors précisément, ça me permet de répondre un peu aussi à la question de Gabriel, parce qu'elle a été très pertinente. Nous, tout le combat que l'on mène, quand on vient médiatiser des affaires de ce type-là, avec des lanceurs d'alerte, avec l'action militante, avec des manifestations, avec des marches, avec tout l'ensemble des outils qu'on peut mobiliser pour que l'on parle justement de ces sujets que l'on pourrait ignorer et laisser dans la rubrique faits divers, c'est que précisément on vient expliquer que nous on considère que ça c'est systémique, la mort de Louis c'est systémique, que ça dit quelque chose de l'ensauvagement de la société, que ça dit quelque chose de la faillite de l'État, de la faillite des institutions, et que c'est pas juste accidentel, et que si les responsabilités politiques avaient été prises en amont, la mort de Louis comme celle des autres aurait pu être évitée. Donc c'est tout ce combat pour venir expliquer que c'est systémique que l'on essaye de mettre en place. Et alors, justement, est-ce que le bloc central recule sur ce sujet-là ? Est-ce que les rédactions reculent face un petit peu à l'avancée de notre narratif ? Je pense que oui. Évidemment, je pense que beaucoup des morts de ce type-là, des assassinats de ce type-là, qui ont été ultra médiatisés dans les dernières années, ne l'aurait pas été forcément avec une telle intensité il y a 10 ans. Je crois qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place plus ou moins depuis l'affaire Lola. En tout cas, moi, je suis assez jeune, j'ai 23 ans. C'est à partir de l'affaire Lola que je commence à voir des mobilisations de rue. Je suppose qu'il y a dû avoir pour les plus vieux militants autour du plateau ou les gens qui suivent la politique depuis un peu plus longtemps, des affaires de ce type-là qui ont déjà suscité des rassemblements. Mais bon, des rassemblements de masse, j'en vois depuis essentiellement l'affaire Lola. Je crois que donc, effectivement, le bloc central recule, et je crois que si de toute façon la PQR change pas sa manière de traiter l'information, eh bien, la nature ayant horreur du vide, c'est aux médias alternatifs que viendra le bénéfice. Précisément, je ne crois pas que les Français soient idiots, ils veulent continuer de s'informer, et ils commenceront à se tourner vers des médias qui mettront peut-être un peu plus en avant des affaires de ce type-là. Et d'ailleurs, le comportement de la propre famille de Louis, en faisant confiance à CNews, qui n'est pas un média alternatif, mais bon, dont on connaît la ligne éditoriale, et à Frontières, c'est symptomatique de... On a voulu mettre en avant cette affaire-là en faisant appel à CNews et à Frontières. Parce que on savait que si on envoyait cette affaire-là à un autre média, elle serait oubliée. Et d'ailleurs, le centre, le caractère politique de l'affaire serait édulcoré, écarté, et la mort de notre fils serait vaine et ne dirait rien, ne ferait pas réagir les responsables politiques. Donc, c'est toujours très difficile à quantifier où est-ce qu'on en est de l'avancée de nos idées dans la société, mais je crois qu'effectivement, on est en tout cas plus avancé qu'il y a 10 ans et que on a, c'est horrible à dire dans des contextes de ce type-là, mais une machinerie bien rodée. En ce sens que nous avons les médias pour mettre en avant l'information, les militants pour lancer l'alerte, les responsables politiques pour pousser ça dans les institutions, et que si tout cet écosystème-là travaille en bonne intelligence, eh bien, il n'y a aucune raison que l'on recule face à un bloc central aussi médiocre.
Haut les cœurs, Raphaël, Emma, nous entendons votre message, que tout le monde se mette en ordre de marche, que tout le monde écoute les médias alternatifs, Ligne Droite, où vous pouvez retrouver Julie Solveig régulièrement sur Radio Courtoisie, tous ces médias alternatifs, accompagne la population quand c'est nécessaire en tant que militant de terrain ou personne qui peut orienter les débats. Il n'y a pas un seul endroit de cette ligne de front générale qui doit être désertée, que chacun prenne sa place. On le voit, c'est pour notre peuple qu'il faut faire ce pas en avant. Une deuxième pause musicale de Pierre Le Prince avant un sujet beaucoup plus léger.
Tout à fait. J'ajouterais juste en complément l'énorme caisse de résonance qui est devenue Twitter depuis son rachat par Musk, qui a quand même permis de faire aujourd'hui mettre en vue, vraiment un nombre de vues conséquent des affaires qui seraient restées justement sous le tapis de la PQR grâce à des caisses de résonance comme ça.
Donc il faut qu'ils gardent, il ne faut pas qu'ils vendent.
Il faut qu'ils gardent.
Bon.
Et ils vont essayer de le faire interdire pour les prochaines élections. Hein. C'est dans les tuyaux. Donc,
bon, à vous.
Dernier espace. Bref, pour conclure cette année, avant une pause estivale bien méritée, je vous propose de quitter l'étouffante chaleur parisienne pour l'air frais de l'Islande avec l'un des groupes les plus iconiques là-bas, Sigur Rós. Leur musique qualifiée de post-rock par la critique est très onirique, voire cinématographique, évoquant les paysages grandioses de leur île, la nature et ses merveilles. Parlant très mal islandais, je me garderai bien d'essayer de prononcer le titre de l'album et l'extrait que je vous propose de découvrir à présent, mais ça ressemble à quelque chose comme Inimersingur Vitlisingur. Bonne écoute, bon été à tous et à la rentrée.
le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne!
Grand désespoir de beaucoup de mes invités, nous n'allons pas aborder le sujet auquel j'avais pensé. Nous allons continuer à évoquer la machinerie qui se met en place, la machinerie médiatique, la machinerie étatique qui tue nos enfants, en tout cas qui permet aux meurtres de pouvoir se dérouler. Gabriel Fouquet, pour poursuivre la réflexion, est-ce que vous aviez des remarques, des questions peut-être?
Oui, tout à fait. Je voudrais profiter un petit peu de la présence de Raphaël et Guillaume qui sont donc amenés à prendre la parole en public pour creuser un peu plus la rhétorique de cette omerta. On sait que la presse utilise des mots clés ou des formules clés pour aborder un sujet sans trop l'aborder, de la même façon qu'on utilise dans le débat public des termes clés pour empêcher le débat. Au hasard, récupération, extrême droite, j'en passe et des meilleurs. Et ce terme de récupération qu'on a déjà entendu, M. Nunez s'est chargé de nous rappeler que l'extrême droite était déjà en pleine récupération politique avant même qu'il y ait la moindre manifestation, est assez intéressant puisque finalement c'est le terme, si on regarde bien, qu'on utilise pour qualifier toute réaction populaire au drame populaire.
C'est ça.
Donc c'est une façon de disqualifier la colère sans répondre aux faits, c'est une excellente échappatoire, sans prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il existe, messieurs, je dis messieurs, mais peut-être que Julie aura une réponse également, des mécanismes rhétoriques à utiliser pour enfin arrêter de se laisser freiner dans un discours par des mots-clés?
Oui, bien sûr. Bah, si je peux prendre la parole en premier, c'est vrai que si on refait un petit peu le contexte, c'est toujours la même chose. C'est toujours l'extrême droite qui parle d'un sujet. On balaye d'un revers de main toutes les revendications, de par un groupe militant ou de par là, par exemple, avec l'affaire Louis, de par tout un émoi populaire de 1500 plus 4500 personnes. Il y a des choses, on ne peut pas les ignorer. L'affaire Quentin, on ne pouvait pas l'ignorer non plus. C'était quelque chose d'extrêmement important. Idem, émoi populaire, émoi politique. Et ça, je pense que la question politique, c'en est aussi un sujet. Il y a régulièrement, voilà, dans le système de l'Assemblée, des questions au gouvernement, par exemple. Et il y a beaucoup de politiques qui justement s'intéressent à ces sujets et posent la question directement au gouvernement, par exemple à Laurent Nunez, qui répond à chaque fois la même chose. Oui, nous prenons nos responsabilités, même le gouvernement Macron dans sa généralité depuis le début du premier quinquennat. Oui, nous prenons nos responsabilités, nous allons assumer, nous avons fait le constat et donc nous allons pouvoir améliorer les choses. Or, le constat, on le connaît tous, les choses sont toujours de pire en pire. Donc, la prise de position politique est une chose, et puis aujourd'hui, on voit un petit peu, pour parler de quelque chose un petit peu plus mainstream, on voit évidemment une France qui bascule du côté du RN, peut-être pour la première fois aujourd'hui, dans les sondages depuis que le RN est connu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on parlait d'omerta médiatique. Les médias ne sont plus en adéquation avec ce que vivent les gens. Ça, c'est une réalité. Et également, les politiques, aujourd'hui qui nous gouvernent, ne sont plus en adéquation avec les revendications des gens. Quand on demande justement au pouvoir public de prendre leurs responsabilités et qu'ils ne le font pas...
C'est ça justement qui m'étonne. Vous avez ce premier parti d'opposition qui monte, qui est avec une forte attente populaire, qui n'est pas entendue, dont les problèmes ne sont pas réglés. Et pour répondre à la question de Gabriel... Quand on les accuse de récupération, ils disent ben « non, on ne veut pas récupérer », au lieu de dire « mais oui, nous récupérons ». Et personne, aucun politique n'assume le fait qu'il est presque de son devoir de devoir récupérer justement les craintes et les espoirs du peuple. C'est ça qui est fou.
Oui, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis et je répète très très régulièrement, il faut être décomplexé de tout ça. Il faut s'enlever ce complexe. Aujourd'hui, ce complexe qu'on s'est mis sur la tête depuis je ne sais pas combien de temps, c'est ça derrière qui nous met cette pression. C'est-à-dire que l'orgueil, il causera notre perte et il a causé notre perte. Aujourd'hui, on voit à l'inverse, il faut voir l'autre côté du bâton aussi, ce qui se passe. L'extrême gauche, il n'y a aucun complexe. Hein. Il n'y a aucun problème. Les manifestations, ça part de tous les côtés. Les mensonges, on les connaît. C'est qu'à un moment donné, si un côté, il n'y a aucun complexe, ben, de l'autre côté... Il faut arrêter de se prendre la tête sur tout ça et juste simplement pouvoir porter un petit peu ces affaires-là. C'était une très bonne chose d'ailleurs d'avoir le soutien politique à Narbonne.
Oui.
À Paris, j'ai de ma vie de militant, de jeune militant également, hein, comme Raphaël, hein, on a à peu près le même âge. C'était la première fois à Paris pour Quentin où j'ai vu autant de responsables politiques qui étaient présents pour rendre hommage justement à un militant qui était considéré évidemment par tous les militants de gauche, évidemment tout leur narratif, hein, c'est l'aspect Gramsci de la gauche, ils ont pris l'éducation, les médias, la culture, et donc dans ce cas-là, après, derrière, nous, on n'a plus la parole. C'est là où on disait les médias alternatifs extrêmement intéressants. Ils présentaient comme un néo-nazi, quelqu'un qui ne méritait même pas une sépulture. Je pense que s'ils savent où est sa tombe, ils pourraient carrément la vandaliser. Eh bien non, les politiques ont fait ce choix de commémorer la mort de Quentin en même temps que tous les militants qui étaient plus ou moins proches de lui. Ça, c'était un des premiers points, et je pense que la réponse politique, contre la réponse politique, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire qu'on bat le fer par le fer, c'est toujours la même chose. Il faut pouvoir avancer sur ces choses-là par une réponse politique avant tout, donc un nivellement par le haut. Mais comme on le disait aussi très bien, et je pense que Raphaël en parlera également, un nivellement par le bas avec les militants qui doivent justement donner cette impulsion. Et c'est là où on va réussir à donner de la visibilité de par les manifestations qu'on va avoir et de par l'aspect médiatique qu'on va réussir à prendre.
Alors on parle de militants et le militant justement communiste italien Gramsci parlait d'intellectuel organique, qui est un petit peu différent mais pas si éloigné. C'est-à-dire c'est la personne qui est dans la société, qui est dans l'entreprise, qui est dans le syndicat, qui est dans la rue, qui est au plus près de son peuple et qui, par sa volonté politique, sa formation idéologique, ses concepts théoriques, son charisme, son intelligence sociale, va permettre justement d'orienter de façon vertueuse les espoirs, les craintes, l'énergie du peuple. Vous, Raphaël et Emma, vous essayez un peu d'être comme activiste, comme militant, cet intellectuel organique. Est-ce que c'est pas ça qui nous manque aujourd'hui? D'ailleurs, ils peuvent prendre, je pense, différentes formes. Ça peut être ici un maire un peu charismatique, ici un leader parce que c'est un peu le plus costaud de la bande, ici le plus intelligent de la bande. Est-ce qu'il nous manque pas justement dans cette société très atomisée de ces intellectuels organiques qui peuvent mettre en musique finalement tout cela?
Tout à fait. Alors, un petit aparté sur le terme de récupération. Il faut livrer une guerre sémantique totale à ce terme que l'on nous a imposé. On ne fait pas de la politique sans récupérer précisément des choses qui disent quelque chose de l'état de notre société. Ça ne passerait pas à l'esprit des nationalistes corses de considérer que l'assassinat d'Ivan Colonna en prison est un fait divers et qu'ils ont récupéré un fait divers. Ça dit quelque chose, évidemment, de l'affaire Colonna. Nous, on doit évidemment tourner le dos à chaque fois qu'on va nous accuser de récupération et continuer à marcher dans notre direction. Effectivement, on peut déplorer que notre parti institutionnel parfois se laisse un petit peu imposer ces éléments de langage par l'adversaire. Quand le Rassemblement National effectivement va répéter à tue-tête qu'il ne récupère pas, il donne en réalité des gages à la gauche. Et précisément, j'en viens à la question de l'organicisme et des intellectuels organistes, et en tout cas des acteurs organiques de l'avancée de nos idées dans la société. En France, on est dans une situation particulière où notre formation politique la plus proche de nos idées s'est refusée depuis un certain nombre d'années à faire de la politique organique. Je ne veux pas les charger pour rien, parce qu'en plus, ça change un petit peu avec le fait qu'ils aient fait tomber des administrations intermédiaires. On peut voir que, par exemple, le maire de Carcassonne, Christophe Barthès, a été très bon sur la séquence, même généralement sur son mandat, se comporte comme un acteur politique organique, notamment quand il arrose des militants de la CGT depuis le balcon de sa mairie. Nous, effectivement, on doit venir combler un petit peu les vides que la politique institutionnelle, à mesure qu'elle se rapproche du pouvoir, laisse. Précisément, les militants, ils ont le devoir de faire de la politique, je crois, au mieux des gens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, souvent lors des interventions que je peux faire auprès du milieu identitaire français, c'est d'expliquer que la politique, ça ne se fait pas à la marge de la société. On n'ambitionne pas d'être une contre-société, on ambitionne d'être la société. On n'ambitionne pas d'être une contre-culture, on ambitionne d'être la culture. Et précisément, ça doit aussi passer presque par une réflexion anthropologique, une réflexion sur nous-mêmes, sur le fait d'aimer notre peuple, d'être, de se sentir proche de lui, empathique de lui, au sens pas bisounours du terme, mais vraiment de mettre l'empathie, la compréhension profonde des sentiments de notre peuple comme moteur de notre action politique. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut en permanence rappeler. Et c'est quelque chose qui s'est vu beaucoup à Narbonne. Moi, à Narbonne, je vous donne cette image parce que je ne croyais pas la vivre dans ma vie de militant, mais elle m'a beaucoup marqué. Et elle peut prêter à sourire. Lors de la première manifestation, je vois une petite bande de jeunes qui étaient là, qui étaient des Narbonnais du coin, qui étaient venus manifester pour Louis, qui portait des t-shirts. C'est dommage que M. Ravier ne soit pas là. À l'effigie du rappeur Jul. Ça peut paraître curieux dans une manifestation identitaire. Mais je sais que mon peuple, dans tous ses défauts, peut avoir des goûts artistiques plutôt médiocres. Eh bien, ces jeunes, quand je les ai vus chanter Narbonne, Narbonne, anti-racaille avec leur t-shirt Jul, je me suis dit, on a quand même fait de la politique de terrain cette fois-ci et on a quand même réussi à se rapprocher de notre peuple sans avoir un petit peu parfois les pudeurs de gazelle que certains pourraient entretenir. Notre peuple, il est parfois apathique et on lui reproche, mais c'est pas pour cette raison qu'on va cesser de l'aimer et cesser d'essayer de le mettre en mouvement. Et précisément, il faudra continuer d'œuvrer au plus proche de lui. Et ça passe évidemment par l'implantation locale, l'implantation organique dans la société. Et je crois que c'est le rôle qu'a cette mouvance identitaire maintenant. Sans la mouvance identitaire, la mobilisation de dimanche dernier n'aurait pas pu avoir lieu.
Julie Solveig, une remarque.
Oui, très rapidement, par rapport au terme de récupération. Non seulement je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut arrêter d'être intimidé par ça, mais au contraire, il faut dénoncer les partis qui ne récupèrent pas ce genre de faits. Je pense à la tante de Louis qui disait justement, mais où sont les partis de gauche pour récupérer le meurtre de Louis? Il faut pas du tout être. Il faut pas être au contraire. Il faut pas être intimidé par ce terme-là. Au contraire, il faut le revendiquer et dénoncer le fait que les politiques de gauche ne récupèrent pas ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
Oui, si je peux me permettre.
Oui, il vous reste une minute, Guillaume.
Voilà, très bien. C'est extrêmement important d'imposer son narratif, d'imposer ses mots et d'imposer justement notre idée derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trop tendance à se laisser faire. À se laisser faire, que ce soit par les autres médias, par les autres politiques, et on commence à réutiliser leurs mots et leur champ lexical. Mais non, imposons le nôtre. Imposons notre champ lexical et imposons justement tout ce narratif grâce à nos médias, grâce à nos porte-paroles et grâce à nos mouvements de terrain qui peuvent justement pouvoir porter cette voix et puis derrière, éventuellement, grâce à des politiques qui justement peuvent prendre tous ces sujets, l'envoyer dans la sphère politico-médiatique, que ce soit à l'Assemblée ou que ce soit dans les autres médias. Et c'est là, je dirais, mon mot de la fin. Il faut qu'on puisse continuer à imposer son narratif de manière décomplexée et réelle, parce que c'est la confrontation au réel dont nous faisons face aujourd'hui.
C'est un des cœurs de la formation de l'Institut Iliade hein, qui a choisi la voie métapolitique, donc le fait de mener la bataille culturelle, d'avoir du poids sur les mots, sur les symboles, sur les images, sur les représentations, sur les tabous. Donc je suis particulièrement heureux d'avoir tous les auditeurs en visio ou ici autour de la table qui ont tout à fait compris l'intérêt de mener cette bataille culturelle et métapolitique. Donc nous sommes pleins d'espoir pour la suite. Avant de nous quitter, évidemment c'est notre moment poétique puisque nous allons retrouver le texte de Frédéric de Saint-Quiot, auditrice de la promotion Homer, qui est lu par la charmante Gabrielle Fouquet et aujourd'hui c'est le masque.
10 ans que je parcours le paysage humain de mon gentil mari dans le moindre recoin. En 10 ans, quel chemin parcouru, que d'amour, que de vertige aussi de n'en faire le tour. J'admire mon mari, ses qualités, ses vices, ses failles et ses bévues, son regard complice. Je le suis jusqu'au bout, jusque dans ses redites, je l'aime jusqu'à l'os, tout entier, sans limite. Cependant, mon amour est loin d'être utérin. Je ne suis pas sa mère, il n'est pas mon poussin. La tendresse éprouvée à son égard n'engage rien de comparable à l'enfantin maternage.
Mon mari ignore tout de l'humeur volage, occupé au fourneau à servir le potage. Est-ce un Olibrius que je vous décris là? Ou bien un père qui sait aussi être papa? Un homme aimant et doux qui aime Origénée, qui est présent et qui assume son foyer. Un homme avisé, qui est pourvu d'atticisme et qui s'exprime en vers, en prose, en aphorisme. Un homme qui se sent concerné par les cris d'un enfant, d'une femme atteinte d'hystérie. Nous nous aimons très fort, et c'est en fait un choix, que de désamorcer un conflit, un faux pas. Nous avons décidé ensemble d'être unis, de nous aimer d'amour chaque jour de la vie. C'est une décision toujours renouvelée, le fruit de notre sacro-sainte liberté. J'aime mon mari, mais je veux surtout l'aimer. Il m'aime parce qu'il l'a dûment décidé. Il connaît tout de moi, tout le bien, tout le mal. Il côtoie la fée et la redoutée maquerale. Il subit mes humeurs, navigue sur leurs flots, nage à contre-courant, sait traduire mes mots. Le non qui est un oui, le oui qui est un non, le oui qui est un oui, le non qui est un non. Lecteur de mes émois, auditeur de mes plaintes, spectateur de mes joies, anis de mon absinthe, codeur de mon silence, interprète à tout va, démineur averti de mon froid consulat, mon époux sait, devine, écoute et me console. Grise mes fantaisies, oublie mes lubies, folle, me rassure en plein doute, édifie ma confiance lorsque chancelle le sort de mon assurance. De proche en proche, il a su conquérir mon cœur, présentant le profil curieux d'une âme sœur. Bien sûr, c'est du travail d'aimer au quotidien, c'est penser au salut d'autrui avant le sien, c'est pardonner aussi des erreurs vénielles, des manquements fâcheux ou bien superficiels. C'est enfin accepter de tôt se décentrer pour placer au milieu l'âtre de son foyer. S'oublier, se donner sans profit, sans compter, s'engager, s'obliger, se tenir, écouter, chercher un responsable au malheur qui surgit, supposer l'intention cachée qui humilie, exposer sa blessure en digne tragédienne pour obtenir séant des excuses en reine, s'expliquer, discuter, ne point fuir le combat, font partie des frissons, des fredons, des frimas de notre vie à deux que je ne troquerai tant je la sirote comme du petit lait.
Quelle beauté, quel magnifique texte sur le couple. Alors c'était l'amour artisanal, le texte, le titre exact. Et je confirme les dires de Frédéric de Saint-Quiot. Le couple est finalement une sorte de bricolage de tous les instants. Alors je n'ai pas le talent poétique pour le dire, mais je vois très bien où elle veut nous amener et en venir. On espère un jour avoir tous ces magnifiques textes édités. Peut-être qu'on pourrait les retrouver. Merci à elle, on l'embrasse fort. Il me reste une minute à peine pour vous donner quelques informations, quelques rendez-vous. Vous savez que l'Institut Iliade avec la revue Éléments a lancé de nouveaux rendez-vous. Alors c'est pour les Parisiens, c'est une fois par mois, nous avons reçu Aristide Lecatte et Marc Froidefond. Le prochain rendez-vous a lieu le 24 septembre, donc à Paris, et ça sera une histoire de la nouvelle droite, avec donc l'auteur d'une somme importante qui vient de sortir dans la collection Agora de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. J'en profite pour passer aussi un message aux nombreux candidats des formations à venir. Il y en a deux à Paris, une à Vannes. Donc nous avons reçu quasiment 220 demandes, pas autant de dossiers, mais tout est en cours. Donc si vous êtes dans l'attente d'une réponse, sachez qu'elle va arriver ces jours-ci, que le jury se réunit pour composer des promotions. Nous, ici, les anciens auditeurs, on n'a qu'une hâte, c'est de connaître la figure tutélaire que vous choisirez et qui éclairera cette nouvelle année de l'Institut Iliade. Merci à Radio Courtoisie, chers auditeurs, nous vous saluons bien bas.
Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir « Vive la civilisation européenne » dirigé par Romain Petitjean, assisté de Gabriel Fouquet, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 6 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.